Alors, bienvenue à toi dans un nouvel épisode des Entrepreneurs Nomades. J'espère que tu te portes à merveille, petite variante aujourd'hui. Sujet que j'avais vraiment envie d'aborder également sur le podcast, que j'ai abordé par email aussi. Peut-être que tu as vu passer l'email, peut-être que tu l'as lu en diagonale, en entier, ou pas du tout, qui est « Faut-il voyager pour trouver sa voie ?» Et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant parce que j'ai moi-même en fait eu une vision et une réponse, quand j'y pense, par le passé, qui a pas mal évolué jusqu'à aujourd'hui avoir une position qui devient de plus en plus tranchée. Alors, d'une part, dans cet épisode-ci, je vais dire des choses peut-être de façon un peu plus franche. C'est vrai que depuis la période covidienne, j'ai eu une période où j'étais pas mal révolté. On va pas se mentir, parce que on a vécu, je trouve, une époque historique d'un point de vue en fait privation de liberté et acceptation collective et dinguerie en fait monumentale et historique. Je pense que voilà, on a quand même vécu des histoires, on a quand même vécu une période complètement folle. Donc j'ai eu une phase un peu révoltée. Ensuite, là, je pense que ça fait 2 ans globalement que je me suis pas mal assagi, que j'ai appris à prendre du recul sur les choses, à ne plus devoir sauter sur n'importe quel sujet et me révolter machin, etc. Et j'ai essayé d'avoir un discours beaucoup plus diplomate, mais je pense que progressivement, maintenant, j'arrive à un stade où je veux aussi être capable de pouvoir dire des choses, même si tant pis, ça veut dire que ça va déplaire à des gens. Malheureusement, il faut accepter que sur Internet, tu plairas jamais à tout le monde. Et je pense que parfois, à vouloir trop mettre des pincettes, etc., en fait, tu dis pas vraiment les choses qui sont à tes yeux, enfin, qui, à mes yeux, en fait, sont les choses qui doivent être dites et qui vont aider le plus à aller en fait dans la bonne direction et parfois rompre avec des idéologies qui sont néfastes en fait, même si elles sont couvertes de bien-pensance, de respect, d'acceptation et d'inclusivité, le mot magique aujourd'hui, il faut tout accepter, tout inclure, donc bref. Mais voilà, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant et que je trouve intéressant aussi à aborder sous différents formats. Donc j'ai fait un article de blog extrêmement complet sur trouver sa voie professionnelle avec un lien vraiment corrélé avec le voyage, en parlant des 4 phases par lesquelles moi je suis passé, qui va être aussi un peu le fil conducteur de cet épisode-ci, mais également dans cet article-là, et là j'ai déjà fait un épisode là-dessus, donc ce sera extrêmement long si je rajoute ça en plus, mais là c'est dans l'article, avec les 6 étapes clés de tout ce que j'ai appris moi pour trouver progressivement ma vocation, ma voie grâce au voyage, à suivre avec des exercices, des liens, etc. Très pratique, donc c'est un article qui est vraiment complet, c'est pour moi aujourd'hui le guide le plus complet que tu peux trouver pour trouver sa voie. Si tu es intéressé également par le voyage, c'est un petit peu l'angle qu'on a choisi, et je dis « on » parce que Océane aujourd'hui m'aide toujours énormément sur le blog, c'est un article qui a été en préparation pendant des mois, vraiment, je mens pas, parce que l'énorme avantage en fait de pouvoir travailler avec une personne comme Océane aujourd'hui, c'est qu'elle me permet d'avoir des bases, elle comprend déjà très bien maintenant l'angle du blog et ce que moi je veux véhiculer et partager, on a un processus de travail qui s'améliore de plus en plus avec le temps, et donc elle me fait des bases extrêmement abouties d'articles que moi derrière je vais pouvoir venir vraiment enrichir et peaufiner, sur lesquels je vais pouvoir apporter ma patte, et donc bref, l'article est extrêmement intéressant, je pense. Il est, je trouve, oui, voilà, pour les personnes qui préfèrent se poser et lire ça progressivement, je vous mettrai le lien en description aussi de cet épisode-ci. Mais l'énorme avantage, en fait, c'est de pouvoir en parler de vive voix pour ajouter des anecdotes, des petites digressions, comme j'ai l'habitude, et tout en essayant de garder le fil conducteur. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler également. Et je pense que oui. Le format email, si tu veux, c'est une version où je peux faire une introduction un peu plus poussée de l'article, par exemple, ou de l'épisode de podcast, par exemple. Mais clairement, dans un email, même si c'est extrêmement puissant parce que tu arrives dans la boîte email des gens, tu peux pas en fait faire un article de 2000 mots ou 3000 mots parce que les gens vont le parcourir en diagonale ou je pense qu'il y a des gens aussi qui lisent entièrement, je peux voir le taux d'ouverture mais je peux pas voir à quel point les gens vont rester et lire l'article en tant que tel, je peux voir aussi le taux de clic, etc. Mais encore une fois, voilà, le fait de pouvoir en parler, je trouve ça intéressant aussi parce que pour les personnes qui ont pas forcément envie de lire, je pense qu'aujourd'hui malheureusement ça devient compliqué de prendre le temps de lire un long article sur Internet. Nous, en tant que créateurs, il faut s'adapter aussi à l'évolution. Et je pense que voilà, ça, malheureusement, cette évolution contribue aussi avec le fait que le degré d'attention et le temps d'attention et la capacité d'attention, je veux dire, ne cesse de chuter. Et ça, c'est problématique, en fait, parce que ça veut dire que si on n'est plus capable de se concentrer sur quelque chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fait, ça veut dire qu'on n'est plus capable de développer une activité, effectivement, en travaillant régulièrement dessus, parce qu'en fait, on est toujours, en fait, on a besoin de stimulus, ça devient comme une addiction, en fait, on a besoin de stimulus, de notifications, de machin, d'une vidéo, machin, et tout, pour se stimuler en permanence, et je pense que c'est nocif au moyen long terme. Mais bref, si tu es ici, sache que je vais essayer de faire pas trop long, j'ai essayé d'aborder ce sujet-là de façon condensée, avec quand même quelques petites digressions comme j'ai l'habitude de le faire. Donc on va forcément parler de ma vision par rapport à cette question-là, avec la question, est-ce que voyager, c'est devenu la seule façon de trouver sa voie à notre époque ? J'ai, encore une fois, pendant la période covidienne, j'ai eu une phase un peu révoltée, où ensuite j'ai appris, et j'ai sûrement été maladroit sur plein de choses que j'ai voulu partager. Ensuite, là, pendant 2 ans, j'ai été beaucoup plus quand même assagi dans mon approche et mes réflexions, et comment je voulais les formuler, parce que j'ai compris aussi que ça ne sert à rien d'être trop braqué, parce qu'en fait, sinon, tu perds des gens, en fait, tu vas les froisser, ils vont plus avoir envie de t'écouter. Mais il y a quand même, aujourd'hui, maintenant, je pense que j'ai quand même un certain recul, où j'ai envie de dire parfois les choses telles qu'elles sont, et tant pis si ça ne plaît pas à certaines personnes, à un moment donné, je pense que j'ai envie d'avancer avec les gens qui sont prêts à questionner des choses et à aller de l'avant et qui sont prêts à remettre en cause leurs croyances, leurs dogmes. Et moi-même, encore une fois, j'ai aucune vérité, comme je le dis à chaque fois. Peut-être que dans... Alors, maintenant, je pense que j'ai un certain âge où je prends un peu plus de recul sur les choses. J'essaie de vérifier davantage comment mon schéma de pensée fonctionne, etc. J'ai passé la trentaine, tu vois, donc j'ai plus, voilà, je suis plus le petit gars de 23 ans qui raconte tout ce qu'il vient d'entendre et qui change d'avis tous les ans. Mais voilà, j'essaie quand même, je me dis quand même qu'il y a parfois, j'ai envie de pouvoir dire les choses d'une certaine façon, qui sont parfois anti-politiquement correctes, mais sans non plus dans une volonté de clash, mais parce que je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour en fait défendre vraiment ses convictions d'une certaine manière. Et c'est pas parce que voilà, il y a plein aujourd'hui d'idéologies en fait qui vont prôner absolument l'inclusivité, il faut tout accepter, tout il faut tout respecter, machin, etc. Non, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a des dingueries en fait complètement absurdes qui pour moi, par exemple, la théorie du genre n'aide pas les gens. Tous les gens qui pensent qu'ils peuvent changer de sexe ou qui sont nés dans le mauvais corps, les laisser croire que c'est qu'ils ont le droit de penser ça. Bah oui, tu peux les laisser croire ça, mais en fait, ça va pas du tout les aider. Au contraire, trouve-moi une personne qui est adepte de la théorie du genre, qui est bien dans sa peau. Je sais pas si ça existe. Il y en a beaucoup qui existent vraiment. Et si même elle est bien dans sa peau maintenant, ok, si elle va jusqu'au bout de son délire et qu'elle pense pouvoir changer de sexe, d'ailleurs, ça n'existe pas, c'est pas possible. On peut pas changer de sexe factuellement. En fait, qu'on la revoie dans 5 ans, si elle est toujours contente de son choix, tu vois, vu qu'elle aura probablement énormément évolué, etc. Bref. Pas de la parenthèse, mais je pense que j'ai envie parfois de dire des choses un petit peu plus crues telles qu'elles sont. Et donc, commençons par donc ma réponse par rapport à ça. Je pense sincèrement aujourd'hui que voyager devient l'une des rares façons de pouvoir trouver sa voie. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que pour trouver sa voie, il faut savoir qui on est, il faut se retrouver. Parce que je pense qu'on, en fait, si on se, en fait, je pense qu'on enfin, comment dire? Il y a plein de choses. Il y a une évolution personnelle aussi, mais je pense que d'une certaine manière, c'est plus se retrouver que se trouver. Parce que à la base. On est ce qu'on est, tu vois, on est petite fille, petit garçon, et puis on va grandir, on va évoluer avec nos croyances, avec notre éducation, machin, etc. Mais en fait, petit à petit, ce modèle, en fait, il nous fait nous perdre. C'est ce qu'on appelle, ça, c'est ce que Marx a appelé le concept d'aliénation. D'ailleurs, j'ai mis dans l'article la référence d'une vidéo que je trouve qui est magistrale, qui explique divinement bien ce concept d'aliénation. Par le podcast, d'ailleurs, Le Précepteur. On a la chance, on a une chance phénoménale d'avoir un podcast de ce niveau-là avec la personne de Charles Robin, je crois. C'est vraiment une personne extrêmement instruite, enrichissante, qui a en plus une qualité oratoire incroyable. Donc, c'est extrêmement agréable de l'écouter. Et en plus, il a une vision très objective. Il essaye vraiment de relater la pensée des différents philosophes qu'il va décrire ou même de leurs idéologies. Et bref, il explique longuement le concept d'aliénation, et pour le résumer vraiment de façon un petit peu une partie du concept d'aliénation, c'est en fait de dire que le système actuel, qui est souvent, voilà, aujourd'hui, Marx était vraiment contre le capitalisme, donc selon lui, le système capitaliste, surtout aujourd'hui de connivence, en fait, il va avoir pour rôle aussi de remplacer la conscience des gens. C'est-à-dire qu'il va leur faire croire que acheter plus de choses ou avoir un meilleur job ou gagner plus d'argent, ça va les rendre plus heureux, et c'est ça qui va contribuer à leur bonheur. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que faire croire aux gens que gagner plus d'argent, ou pouvoir acheter une plus belle voiture, ou pouvoir acheter une plus belle maison, ou pouvoir acheter plus de choses, en fait, ça va pas vraiment les rendre plus heureux eux, mais ça va par contre contribuer au système capitaliste qui a besoin d'une croissance permanente. Le système, en fait, il veut qu'on fasse 2 choses, il veut qu'on travaille et qu'on consomme. Et là où c'est ingénieux, c'est là où c'est plein de phénomènes d'ingénierie sociale, etc., pour ceux qui veulent creuser le sujet, mais. C'est fabuleux à quel point aujourd'hui ils ont tellement une mainmise sur les médias, les gouvernements, ils vont financer les associations qui vont pousser leurs idéologies, des mouvements sociaux aussi qui vont financer de l'intérieur, enfin bref, qu'en fait ils sont capables de remplacer la conscience des gens et ils sont capables de faire croire aux gens, de faire mener des combats aux gens qui ne sont pas dans leur intérêt mais dans l'intérêt du système et de faire croire aux gens que c'est dans leur intérêt. Je sais pas si c'est clair ou pas. Mais bref, en gros, c'est un remplacement de conscience qui a pour but de servir le modèle et non pas de servir les gens. Donc, bref, pour moi, le wokisme, de manière générale, pour le résumer platement, toutes les idéologies wokistes, donc tout ce qui va être pseudo-écologie, catastrophisme, réchauffisme, etc., théorie de genre, guerre des sexes, néo-féminisme poussé à l'extrême, machin, etc., Tout ça, ce sont des combats qui ont un intérêt pour le modèle capitaliste. Alors, je ne vais pas commencer à expliquer, à essayer d'expliquer pourquoi, parce que c'est extrêmement complexe, mais dis-toi que ces idéologies-là sont poussées par un matraquage médiatique, par des associations financées forcément, par des personnes influentes qui vont être aussi payées et influencées pour avoir ce discours-là sur le plateau télé, pour défendre ces idéologies-là, machin, etc. Et si le modèle n'y avait pas d'intérêt, ces idéologies ne seraient pas là. Tu vois, dans un modèle tel qu'il est, les idéologies dominantes sont celles du pouvoir. Ça, c'est aussi un concept extrêmement important à comprendre. Et là, on parle plus dans un débat philosophique que sur le sujet initial de voyager, est-ce que c'est la meilleure façon de trouver sa voie, mais je trouve ça extrêmement important de comprendre ce concept-là, parce que pour pouvoir trouver sa voie, il faut justement sortir de ce schéma de vie, en fait, de ce schéma dans lequel, dans ce modèle dans lequel, les idéologies qui nous sont poussées, en fait, ont pour but de nous déconnecter avec de notre nature profonde. J'ai eu du mal à le formuler, mais pour le reformuler de façon plus claire, le schéma actuel, si tu veux, il a pour but de nous déconnecter de notre nature profonde. Et ce qu'il faut faire pour trouver sa voie, c'est qu'il faut se reconnecter à sa nature profonde, il faut se retrouver soi, et il faut être idéalement dans un environnement en fait, dans lequel tu ne vas pas être exposé et matraqué d'idéologies qui ne sont pas les tiennes et qui sont là pour servir le modèle. Et c'est là où le voyage et la transition se fait gentiment avec le voyage. Voyager te permet de... En fait, quand tu voyages, tu n'es pas en train de checker l'actualité, tu n'es pas en train de checker les réseaux sociaux toutes les 10 minutes, tu n'es pas en train de regarder des vidéos de débats sur plein de sujets, tu n'es pas en train de regarder, de suivre les élections, tu t'en fous quand tu es en voyage, vraiment, je parle du vrai voyage en mode road trip, en mode, je sais pas, tu es occupé, tu es en mode backpack, etc. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, il pourrait y avoir une... Alors, guerre, j'exagère, mais il pourrait y avoir des dingueries qui feront réagir et peur à tout le monde, à tous ceux qui ont un métro-boulot-dodo, qui regardent la télé le soir, machin, etc., ou même qui ne peuvent pas éviter de regarder les réseaux sociaux régulièrement. Tu ne serais même pas au courant tellement... Enfin, moi, pendant mes années de PVT et de voyage en backpack, je me rappelle à quel point mais je ne savais pas ce qui se passait dans le monde. C'était incroyable et c'était une sensation, en fait, tu n'y penses même pas. Donc, le lien avec le voyage... C'est de te dire que voyager te permet de te libérer de toutes les conneries d'idéologie dominantes qui nous sont poussées H24 pour te recentrer sur l'essentiel. Et c'est là où je pense vraiment que le voyage est une des seules façons de pouvoir vraiment se déconnecter du bruit constant de tout ce qui nous est matraqué H24. Et donc, en te libérant de ce bruit-là, tu vas te décharger mentalement, mais d'une façon dont il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, pour pouvoir en fait juste vivre des choses nouvelles. Et là où le voyage, j'en arrive au deuxième point, là où le voyage est extrêmement bénéfique et je pense pas qu'il y ait un équivalent, je pense pas que tu peux vivre intérieurement l'équivalent de ce qu'un voyage au long cours peut t'apporter. Parce que au-delà de tout ce que j'ai à te dire, c'est-à-dire que tu seras coupé, tu auras clairement autre chose à faire que de suivre l'actualité ou d'être au courant ou d'avoir des débats avec tes potes sur machin, ce qu'il faut penser, machin et tout. Ou même d'être devant la télé ou devant les réseaux sociaux en permanence parce que tu es occupé à faire des choses, à vivre des choses. Mais le deuxième point, c'est que tu vas vivre des choses nouvelles et en permanence. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas te confronter à des nouvelles mentalités, à des nouvelles façons de penser, à des nouvelles cultures. Et surtout, tu vas vivre toi, tu vas être confronté à des tas de nouvelles expériences, qu'elles soient parfois bonnes ou parfois moins bonnes. Il y a des galères en voyage et ces expériences-là sont vitales pour se construire. Et c'est une chose que tu ne peux pas retrouver quand tu es bloqué en fait, dans une routine métro-boulot-dodo où en fait, tu peux prédire limite dans... Si là, tu as un taf tu vois, qui te convient avec logement qui te convient, en fait, limite, tu peux prédire, si tu ne changes pas ces deux choses-là, tu peux prédire à quoi ressemblera ta vie dans 10 ans. Tu vois. Auras peut-être une plus belle voiture, tu auras peut-être un appart qui sera un peu plus grand, tu auras peut-être un meilleur salaire, tu auras peut-être une promotion... Mais globalement, tu auras vécu la même chose quoi, pendant 10 ans. Enfin, je résume, ah oui, tu peux faire des expériences à gauche, à droite, des excursions, mais ce n'est pas aussi profond que voyager un an ou deux à l'étranger complètement avec les expériences qui sont impensables en fait, quand tu as un métro boulot dodo en permanence. Et c'est là où voilà, le voyage, pour moi, est unique. C'est parce que c'est un accélérateur d'expériences nouvelles. Et pour savoir qui tu es, tu as besoin de savoir comment tu réagis face à des nouvelles expériences, face à des nouvelles situations, face à des nouvelles galères, face à des nouvelles personnes, face à des nouvelles mentalités. Et je pense que c'est aussi ça, ça rejoint aussi le problème, un des problèmes actuels qui est que les gens ne sont plus capables de faire face à l'adversité. C'est parce qu'en fait, ils sont plus... En fait, ils sont plus assez exposés à l'adversité. On veut avoir une vie, en fait, facile, sans contrainte. Et à la moindre contrainte, à la moindre difficulté, les gens abandonnent. Tu vois bien que c'est pour ça que tu as une infime petite partie des gens qui veulent entreprendre, qui arrivent. Parce que oui, entreprendre, c'est pas facile. Entreprendre, ça prend des années. J'en ai marre du débat de dire en 6 mois, machin et tout. Oui, tu peux monter des projets, avoir des débuts de résultats en 6 mois, par exemple, si tu appliques les bonnes méthodes. Et là, je parle de 6 mois, par exemple, pour l'exemple du blogging. Tu peux avoir des vrais résultats en 6 mois si tu t'y mets vraiment à fond et que tu te formes correctement. Mais pour développer une activité concrète, solide, de laquelle tu peux vivre, pour moi, c'est normal que ça prenne des années. Donc, c'est normal qu'il y ait une phase un petit peu dans ce qu'on appelle la traversée du désert. Les gens qui te disent moi, j'ai une méthode pour t'aider à traverser la. Enfin, justement, à surmonter la traversée du désert et avoir des résultats directement, c'est du bullshit. Soit c'est des, ou alors, c'est des méthodes complètement pétées de e-commerce, de dropshipping, machin, etc., qui n'apportent aucune contribution à la société et dans laquelle tu ne vas pas vraiment t'épanouir, je pense. Donc, voilà, concrètement, vivre des choses nouvelles, c'est une des choses en fait qu'on a perdu dans notre société, et c'est une des choses en fait qui est extrêmement importante, surtout quand on est jeune. Et c'est là où tu vois, en fait, c'est parce que justement les gens sont enfermés dans un schéma de vie que, notamment les jeunes qui sont les plus influençables, bah, en fait, se font avoir par toutes ces idéologies wokistes. Enfin, je veux dire, c'est pas Gérard de 50 ans qui pense qu'il doit changer de sexe, hein. Je veux dire, c'est les plus jeunes qui sont en train de se construire, qui sont les plus influençables, et malheureusement, le système le sait, ça. Donc, c'est pour ça que le matraquage médiatique, il se fait sur des médias de merde comme Combini, comme peu importe les autres médias woke que tu peux voir, ces choses-là, pour moi, sont à bannir. Ces choses-là sont nocives à un degré infiniment sous couvert d'inclusivité, de respect, la parole se libère, machin et tout. Non, ça détruit les jeunes. Factuellement, je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je pense. Et là où le voyage te permet de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire tu te coupes de ce bruit-là, tu te coupes. Et ce que je donne comme exemple dans l'email, c'est que les tribus qui vivent comme nos ancêtres, tu vois, qui vivent coupés de tout dans la jungle, machin et tout. Est-ce que tu crois qu'ils sont en train de se demander, donc eux, je pense que c'est la définition absolue, tu vois, de la déconnexion avec notre société développée, machin, ou qui sera un petit peu l'équivalent de quand tu pars en voyage. Alors tu vas pas vivre comme un mec dans une tribu, mais voilà l'idée quand même. Est-ce que tu penses que les gens qui vivent au fin fond de la jungle, dans leur tribu, comme leurs ancêtres, ils se demandent tous les 4 matins s'ils sont nés dans le bon sexe ? Est-ce que tu penses qu'ils se demandent s'ils doivent arrêter d'avoir des enfants pour sauver le climat ? Est-ce que tu penses qu'ils se demandent s'ils doivent investir en bourse, en immobilier ou en crypto pour pouvoir avoir ce dont ils ont besoin ? Eh ben non, parce qu'ils vivent, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas exposés à toutes ces merdes-là. Donc en fait, eux, ils vivent. Et en fait, leur vie est beaucoup plus simple et ils sont centrés sur l'essentiel, c'est-à-dire que comment ils vont survivre, comment ils vont s'alimenter, comment ils vont pouvoir protéger leur famille, leurs enfants, etc. Et comment ils vont pouvoir pérenniser en fait leur vie pour leur tribu, etc. Et je pense que d'une certaine manière, alors on ne fait pas ça autant à l'extrême, mais le fait de partir en mode backpack, sac à dos, etc., te fait te ressentir sur l'essentiel parce que bah, littéralement, tu vas vivre avec tout ce que tu possèdes sera dans ton sac à dos, tu vois. Et en fait, tu vas être centré sur vivre des choses et te centrer sur l'essentiel et tu seras occupé. Et donc, tu ne seras plus noyé dans des idéologies à devoir scroller, tomber sur plein de trucs et penser, trouver refuge en fait dans des idéologies qui vont t'occuper parce qu'au final, tu te fais chier dans ta vie. Donc, voilà, je pense pourquoi le voyage. Pour moi, est une des choses qui est irremplaçable, enfin qui est de plus en plus irremplaçable en termes d'expérience et d'apprentissage sur soi. Et je pense aussi qu'un des éléments fondamentaux, et ça je peux le voir même autour de moi avec certains de nos proches, les gens manquent cruellement de confiance en eux aussi. Mais c'est normal parce que la confiance, pour moi, elle vient en te prouvant que tu es capable de faire des choses. Et donc dans le voyage, tu vas faire des choses que tu te penses incapable de faire et tu vas réaliser bah tu le fais, tu vois, comme n'importe qui, tu es capable de le faire. Moi, tu vois, enfin, je veux dire, pars en PVT solo en Australie et si tu arrives, comme la plupart des gens le font, parce que je pense qu'il y a peut-être un infime pourcentage, peut-être 1% des gens qui reviennent déçus de leur PVT, tu vois, s'il y en a, bah en fait, si tu pars, tu vas te démerder, tu vas trouver un job, tu vas te démerder pour rencontrer des gens, tu vas trouver un logement, puis après tu vas acheter un véhicule, et tout ça, tu vas te dire, mais en fait, putain, je l'ai fait, tu vois, je suis capable de le faire. Et dès que tu auras une galère en road trip, machin et tout, nous on a déjà eu des pneus crevés en plein road trip au milieu de nulle part sous un cagnard de 45 degrés, enfin tout ça, c'est des galères qui deviennent des bons souvenirs, et tu surmontes tous ces problèmes-là. Enfin, je veux dire, c'est... Tu vois, alors je te parle du PVT, mais ça peut être dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel voyage, dans n'importe quelle aventure, mais... L'idée, c'est de réaliser que pour se construire la confiance en soi, bah oui, il faut passer par des épreuves en fait de la vie. Et le fait de ne plus passer par des épreuves aujourd'hui, de suivre un schéma où tout est prévu, où les parents, pour moi, oui, c'est aussi le rôle des parents, tu vois. Je pense que les parents, ils veulent bien faire, mais quand les parents, en fait, tu peux remarquer, dans ton entourage, peut-être que t'as des personnes comme ça. quand les parents sont encore trop présents ou étaient trop présents durant l'adolescence et même la jeune vie adulte et s'occupent de tout et font, et tu vois, ils vont donner trop d'argent ou ils vont acheter une voiture ou ils vont, je sais pas moi, payer le loyer, tu vois, jusqu'à un certain âge, bah, en fait, ces gens-là ne seront malheureusement pas capables de s'accomplir tant qu'ils ne se seront pas libérés de l'emprise de leurs parents. Alors que là, je fais de la psychologie et encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est des choses pour moi que je peux constater dans la vie. Et encore aujourd'hui, tu vois, t'as des gens, ils ont quasiment 30 ans, t'as les parents, tu vois, ils s'occupent encore d'eux, tu vois, ils s'occupent encore de leur vie, ils s'assurent, ils leur donnent de l'argent s'il faut, ils leur disent quoi faire dans la vie, etc. Mais non, en fait, il faut que, pour se construire, il faut que tu fasses tes propres erreurs, il faut que tu passes par des expériences, par des épreuves, par de l'adversité, et ensuite seulement, moi, je serai à vie reconnaissant de l'éducation que j'ai reçue de ma maman, qui, dès l'âge de 16 ans, si je voulais m'acheter des trucs, elle m'a dit, bah, tu vas travailler, tu prends un job étudiant en parallèle de tes études, et tu vas travailler, et j'ai travaillé toute ma vie étudiante, tu vois, et je faisais les week-ends, et je faisais les vacances scolaires. Et alors, il y a ça aussi, mais je veux dire, à aucun moment, elle m'a rendu la vie trop facile, parce que déjà, bah, ma mère m'a élevé principalement seule à partir de mes 10-11 ans, tu vois, et donc, en fait, financièrement, elle ne pouvait pas se permettre, alors, elle a toujours tout fait pour que j'aie tout comme les autres, tu vois, mais le minimum, c'est-à-dire les voyages scolaires, etc., et ça, toute ma vie, je serais reconnaissant, elle a été incroyable, mais là où elle devait être plus dure et juste, bah, elle l'était, tu vois, elle me disait, bah, tu veux ça, Jérémy, je ne vais pas te le donner, ça ne va pas tomber, tu vois, dans la vie, parce que dans sa logique, c'est... Et c'est là où je pense que c'est fabuleux de pouvoir faire ça dès son premier enfant, parce que tu réalises à quel point ensuite, bah moi maintenant, si je suis capable de, quand je veux quelque chose, je m'en donne les moyens, c'est parce que j'ai reçu cette éducation-là. C'est pas parce que bah, tout m'est tombé dans les mains. Et d'ailleurs, tu remarqueras que les enfants parfois un peu de stars, etc., bah, c'est des gens paumés, tu vois, les Paris Hilton et compagnie, tu vois, c'est des gens, ils sont nés avec une cuillère, c'est quoi, une cuillère d'argent dans la bouche, comment on dit, c'est ça l'expression. Et bah, ces gens-là, en fait, voilà, ils sont nés, ils ont tout, et à aucun moment, ils seront capables d'accomplir des choses par eux-mêmes, tu vois, parce que tout sera toujours financé par leur famille, par papa, maman, etc. Et à un niveau moins extrême, je pense encore une fois que quand on est né dans une famille trop bien aisée financièrement, bah, à part peut-être reprendre la société de papa ou de maman, j'en sais rien, ou des parents, mais souvent, ce sont des gens qui vont avoir plus de mal, ou suivre des études extrêmement bien payées, encore une fois, par les parents, machin et tout, et suivre un schéma extrêmement traditionnel où tu vas faire carrière parce que tu as des bons contacts, parce que tu as une famille qui a le bras long, machin, j'en sais rien. Mais sinon, ce sont des gens qui auront plus de mal, je pense, à s'émanciper pour construire leur propre projet de façon indépendante. Et je pense qu'à un moment donné, n'importe quel oiseau a besoin de voler de l'oie du nid, tu vois, du cocon familial. À un moment donné, il faut prendre son envol et il faut pouvoir s'assumer par soi-même et construire sa propre vie, tu vois, je pense, d'une certaine manière. Bref. Mais du coup, j'ai encore digressé, mais j'espère que ça... Voilà, je digresse, mais j'espère que c'est des sujets qui, peut-être, qui te font écho ou qui font réfléchir ou j'en sais rien. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est des réflexions vraiment que je trouve extrêmement importantes à partager à notre époque. À la base, je voulais partager les 4 phases par lesquelles je suis passé pour trouver ma voie via le voyage. Donc, je vais faire ça un peu en accéléré à la fin, enfin, pour pas tirer cet épisode en longueur. Mais la première phase que j'ai notée, c'est vraiment, et c'est la plus difficile, c'est d'oser partir, enfin, d'oser sortir plutôt du schéma conventionnel. Et c'est là où, en fait, c'est un petit peu en lien avec tout ce que j'ai déjà dit de toute façon, hein. Mais ce n'est pas en vivant des choses qui sont toujours les mêmes que tu vas te découvrir, que tu vas apprendre des choses nouvelles. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, si tu dois potentiellement retenir une phrase de cet épisode-ci, c'est « ce n'est pas en vivant toujours la même chose que tu vas découvrir de nouvelles choses ». Et d'ailleurs, bah, y a une citation peut-être qui sera peut-être plus intelligente à retenir, si tu veux la citer, mais d'Albert Einstein qui nous a dit « la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents ». Donc je vais le relire une fois, mais « la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents ». Donc, je veux dire, c'est une évidence qu'on a besoin de vivre des choses nouvelles, de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et ça, tu peux le faire aussi dans la vie traditionnelle, tu vois. Si, je sais pas moi, si tu as une passion secrète un petit peu pour le théâtre. Ben, en fait, pour pouvoir avoir des réponses par rapport à est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi, il faut que tu prennes des cours de théâtre. Il faut que tu ailles t'exposer, que tu sortes de... Il y a cette fameuse phrase « sortir de sa zone de confort », mais elle n'est pas populaire pour rien. Il y a vraiment du vrai dans cette phrase-là, je pense. Mais il faut que oui, tu prennes ton courage à deux mains, que tu ailles prendre un cours de théâtre, tu t'inscrives pour 10 séances et, ou de l'improvisation. Tu vois, moi, j'ai un ami qui voulait travailler sur ça par rapport à l'improvisation parce qu'il se trouvait toujours pas assez à l'aise dans certains contextes, etc. Il a pris des cours d'improvisation et moi, je trouve ça fascinant parce que je ne sais même pas si c'est un truc que moi, j'aurais le courage de faire, tu vois. Et pourtant, ben voilà, si c'est quelque chose que toi, tu as envie de poursuivre et de découvrir de nouvelles choses sur toi, parce que peut-être que si tu ne trouves pas ta voix, c'est parce que bah, jusqu'à présent, les infos que tu as sur toi-même ou sur ta vie ou ta mentalité ou ta façon de penser ou ton entourage, bah, ne te permettent pas de savoir dans quelle direction aller, donc tu as besoin de découvrir de nouvelles choses. Et donc pour ça, bah, pour moi, le voyage, autant faire d'une pierre deux coups, hein, autant vivre des expériences dont tu te rappelleras toute ta vie, que tu regretteras jamais, et en même temps, en profiter pour en vivre, vivre des nouvelles choses et donc en apprendre énormément sur toi. Deuxième phase que j'ai notée, c'est d'essayer de choisir voyage ou long cours qui va te correspondre. Alors moi, je t'avoue que je ne suis pas objectif par rapport à ça. Il y a des tours du monde, il y a des voyages même en backpack qui n'ont pas besoin d'être tour du monde, il y a des expériences de bénévolat à l'étranger, il y a différentes façons de voyager, il y a même parfois des voyages un petit peu où tu vas rencontrer des voyages organisés pour des voyageurs solo, tu peux commencer par ça, tu vois, parfois qui vont de 2-3 semaines pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je trouve ça extrêmement intéressant comme concept d'encourager les gens à organiser. Alors c'est pas organisé, c'est des personnes qui vont organiser des voyages, si tu veux, pour des personnes solo qui veulent partir voyager mais qui n'ont pas de compagnon de voyage, et donc bah tu pars, voilà, je sais pas moi, c'est une personne qui va organiser un voyage pour, je sais pas moi, 6 semaines en Turquie par exemple, je l'invente, et ça va être un groupe de, je sais pas moi, 12 voyageurs solo. Mais moi je trouve ça génial parce que tu vas rencontrer des gens qui sont attirés par le voyage aussi, qui ont du coup bah, probablement bien plus de points communs avec toi que certaines personnes de ton entourage. Tu vas faire des rencontres et tu vas en même temps pouvoir tester ce qu'est le voyage dans un environnement où c'est un peu plus contrôlé, tu vois, où t'es pas complètement perdu. Voilà, en général, il y a une organisation un petit peu, il y a un petit peu un planning pour le voyage, mais je trouve que c'est des choses qui gagnent à être connues. Mais voilà, c'est juste une façon, encore une fois, pour pouvoir choisir le voyage au long cours qui te correspond, bah, fais des tests peut-être, c'est des choses déjà plus accessibles. Parfois, je sais pas, prends un véhicule, loue un van pendant une semaine, fais un road trip, que ce soit en solo ou à deux, que ce soit même tester peut-être 2-3 semaines en solo, en backpack, tu vois, par exemple. Bref, mais l'idée, c'est de tester des choses et de tester un voyage au long cours, enfin, pour choisir le bon voyage au long cours pour toi. Moi, j'avoue, encore une fois, là où je dis que je suis pas objectif, c'est que je suis team PVT. Moi, je pense vraiment que le PVT Australie, c'est de loin la meilleure façon de faire un premier long voyage solo, parce que tu vas rencontrer beaucoup de personnes comme toi qui partent dans la même optique, qui partent solo et qui attendent qu'une chose, c'est rencontrer des personnes. L'Australie est un pays merveilleux. L'Australie, en plus, le PVT a l'avantage de pouvoir te permettre de travailler sur place et donc financer ton voyage sur place, ce qui est incroyable. Et en plus, ouais, c'est un pays qui est magnifique à explorer, c'est le pays du road trip, et en plus, t'es loin de chez toi, tu vois, donc t'es vraiment coupé avec ta vie d'avant, et tu vas être, en plus, tu vas être en décalage horaire total, donc tu vas pas du tout suivre l'actualité, ce genre de choses, vu que tu dormiras pendant que les choses se passent ici. Donc, voilà, je pense que c'est une très bonne façon, et en plus, voilà, c'est quand même un pays qui est développé, tu vois, t'as plein de grandes villes, etc., donc tu vas pas non plus au milieu de la Papouasie, où tu passes de vivre en ville avec peu d'habitudes, un petit peu de voyageurs, à vraiment au milieu de la jungle. Donc là, t'as plein de grandes villes au début où tu te prends tes habitudes et t'y vas progressivement. Donc voilà, si pour les personnes qui seraient intéressées, sachez que c'est de 18 à 35 ans pour les Français, je le rappelle quand même parce que parfois on pose la question, et de 18 à 30 ans pour les Belges, sachant que c'est chaque fois, vous pouvez faire la demande, mais pensez au décalage horaire, jusqu'à la veille de l'âge limite. Donc c'est pour les Belges, c'est jusqu'à la veille de vos 31 ans, mais à l'heure australienne. Pour les Français, ce sera jusqu'à la veille de vos 36 ans, mais à l'heure australienne. Et donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez partir en PVT une fois que vous aurez eu votre anniversaire, si la demande a déjà été faite et qu'elle est acceptée, bah, il se peut que des personnes partent par exemple avec leur demande qui va être acceptée quand elles ont 36 ans ou 31 ans pour les Belges. Je sais qu'il y a en ce moment, petite parenthèse sur le PVT Australie, je ferai peut-être un épisode là-dessus parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Oui, il y a par endroit, apparemment, maintenant, on entend de plus en plus ça, un peu une crise du logement et de l'emploi pour certaines régions, pour les backpackers un petit peu, notamment à Perth, où il y a une explosion de la popularité pour les mines, notamment, et donc ce qui fait que tout le monde va à Perth, et donc tout le monde veut se loger à Perth et pouvoir aller travailler en mine, par exemple. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de crise du logement ou de l'emploi pour les gens qui connaissent les bons plans, qui savent comment réagir, qui savent comment trouver un job concrètement, qui ne veulent pas rester s'entêter à rester en ville absolument, alors que l'Australie fait la taille de l'Europe, tu vois, littéralement. Donc oui, si tu suis le schéma un peu tendance là où tout le monde veut aller à Perth pour travailler en mine, oui, il y aura probablement un peu plus de bouchers. Ce sera peut-être un peu plus cher pour le logement. Mais encore une fois, il y a plein d'autres secteurs extrêmement intéressants, extrêmement rentables, qui ne sont pas aussi populaires et connus que les fermes solaires ou que les mines. Donc tout ça, je le partage dans la rue vers l'or. Et d'ailleurs, pour les personnes, je fais une petite parenthèse, qui seraient intéressées par le visa PVT, je fais une offre spéciale. Donc si tu écoutes ceci, je vais le poster mercredi à mon avis. Donc si tu écoutes ceci mercredi, jeudi ou vendredi, sache que je fais une offre un peu exceptionnelle parce que j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps de personnes qui à la base ne pensaient pas partir en PVT et qui à force de m'en entendre parler se disent que oui, peut-être que c'est une bonne solution pour trouver sa voie et pour vivre une expérience à me donner, dire fuck un peu à ce schéma conventionnel et se dire qu'on n'a qu'une vie et qui donc se sont intéressés au visa PVT Australie. Et donc voilà, je fais moins 50% pour le dire platement sur les deux guides mais également sur le pack. Donc ce qui fait que ça a des prix vraiment dérisoires par rapport au travail, à la valeur et à tout ce que je partage dedans. Donc il y a 50% sur réussir son PVT Australie qui est le guide complet dans lequel je t'explique absolument tout sur les démarches, l'achat d'un véhicule, même l'aspect administratif des jobs, même une grosse partie déjà sur les jobs, sur les road trips, sur tout ce qu'il faut savoir, les préparatifs, sur comment préparer son retour, sur l'administratif, bref. Autant pour les Belges que pour les Français, il y a 50% sur la ruée vers l'or, qui est un guide vraiment full focus sur les secteurs les plus rentables et comment rentrer dedans. Et oui, on voit notamment les fermes solaires et les mines, mais pas que. Il y a des secteurs pour moi qui sont bien moins connus, mais qui payent tout autant. C'est-à-dire, on parle, oui, de jusqu'à 8 000 $, même 9 000 $ par semaine pour les gens qui feront vraiment énormément d'heures. Et comment rentrer, à qui peut, enfin, des vrais contacts pour postuler au bon moment, être au bon endroit au bon moment, etc., pour avoir beaucoup de chances de rentrer dans cette job-là. Et également, donc, du coup, sur le pack All Inmate, qui inclut les deux guides, à prix vraiment dérisoire. Donc si tu veux, voilà, je te mets les liens également sous cet épisode-ci, il suffit de descendre un petit peu et tu trouveras les liens sans aucun problème. Mais voilà, fin de la parenthèse, ça terminera vendredi à minuit, donc à 23h59. D'ailleurs, de toute façon, je pense qu'il y a un timer maintenant sur la page que j'ai pu installer et qui fonctionne bien, donc tu peux aller jeter un œil si ça t'intéresse, il y a la vidéo de présentation avec le guide complet, avec le programme complet, etc. Bref, donc ça c'est la deuxième phase, c'est de choisir un voyage au long cours qui va te correspondre et je vais te faire quand même une grosse recommandation si tu n'as aucune idée, mais encore une fois, tu peux t'inspirer d'autres personnes qui ont fait des tours du monde, qui ont fait des voyages solo, peu importe, ou même à deux, et voir ce qui toi t'intéresse le plus. Troisième phase, c'est bah, en fait profiter de ce voyage pour vivre des expériences nouvelles, te focaliser sur toi, te recentrer sur toi. Tu verras que les choses sont beaucoup plus claires et limpides quand on se coupe du bruit. Tout devient beaucoup plus clair. Il suffit par exemple, si tu es amené surchargé mentalement, juste d'aller te balader une heure ou deux, ou te faire une bonne randonnée, mais juste pour faire un truc vraiment accessible à tous, tu vois, tu vas te balader une heure en pleine nature, tu vois, deux heures, allez, une heure ou deux en pleine nature, un endroit où tu es un peu coupé du bruit, le long de l'eau, bah, crois-moi que quand tu vas revenir chez toi, tu auras un sentiment d'apaisement et de calme, parce que tu auras pas, justement, tu auras permis à ton esprit de se vider, enfin, tu vois, peut-être que, je pense que c'est devenu tellement rare aujourd'hui d'avoir des moments où on laisse son esprit, genre, se vider, où il n'est pas exposé à des informations. J'en parlais justement en story aujourd'hui. Maintenant, ça fait plus d'un an que j'ai cette habitude de, quand je fais du sport, de ne plus avoir d'écouteurs pour écouter de la musique ou des épisodes de podcast. Parce qu'en fait, on est toujours dans une quête de l'optimisation du temps. Mais à un moment donné, moi, je veux juste faire mon sport, profiter de mon sport. Et maintenant que je cours, tu vois, ça fait quand même deux bons mois, voire peut-être trois mois que je me suis mis à courir plus intensément, deux fois par semaine, pour préparer un semi-marathon progressivement, parce que ça m'intéresse et j'ai envie d'être on va dire, un sportif plus complet que juste aller à la salle, tu vois. Bah en fait, je trouve ça fascinant à quel point ça me fait du bien quand je vais courir une heure, parfois même 45 minutes, une heure quart, une heure et demie, ça dépend des sorties. Et juste, je vais courir dans les bois et à quel point je me suis vidé la tête, à quel point je suis apaisé quand je reviens et même quand je fais à ma salle de sport. Alors, il balance de la musique dans la salle, mais voilà, je trouve que ça me charge moins l'esprit que si j'avais ma propre musique ou un épisode que je dois écouter de podcast, tu vois, en parallèle. Mais encore une fois, voilà, si tu m'écoutes en faisant ton sport, chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour juger, c'est juste un truc que moi j'applique. Mais voilà, tout ça pour te dire que juste se balader une heure ou deux, laisser du temps à son esprit de se reposer hors sommeil, c'est déjà extrêmement bénéfique. Alors imagine si ta journée va être faite juste de... Tout ce que tu auras planifié, c'est, voilà, par exemple, c'est en road trip, c'est où tu... Alors, il y a quand même des choses à penser, je vais pas te mentir, mais c'est des, voilà, c'est des choses plus pragmatiques de la vie qui sont moins, qui vont moins te bouffer, tu vois. C'est en gros, qu'est-ce que tu vas manger, où on va, à quel spot on va faire aujourd'hui et où on va dormir ce soir, tu vois. Et c'est, voilà, grosso modo, c'est ces trois questions-là. Et ta vie est beaucoup plus simple parce que tu prends le temps, tu vas prendre le temps de te poser à ton spot, de boire une bière quand tu viens de te garer, j'en sais rien. Mais ta vie est beaucoup plus simple, surtout tu la passes en extérieur et ça change absolument tout. Bref, donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Alors la phase 3, je ne sais plus si j'ai commencé à en parler ou pas, mais la phase 3 du coup c'est de... Voilà, ce que je voulais dire, non, la transition, je me rappelle, la transition que je voulais faire entre la phase 2 et la phase 3, c'est de te dire que pendant cette phase de voyage, tu vas aussi probablement un petit peu méditer sur, ok, voilà, je découvre ce mode de vie-là, ça me plaît énormément, j'en profite, mais peut-être qu'après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, moi ça a duré 4 ans, il faut peut-être que je trouve un petit peu ce que je vais faire de ma vie, tu vois, et comment je vais pérenniser, maintenant que j'ai découvert ce mode de vie-là, comment je peux pérenniser un mode de vie peut-être plus indépendant, plus flexible, surtout si t'as pas envie, comme moi à l'époque, absolument pas envie de revenir à la vie d'avant. Et comme je le dis dans l'email aussi, moi j'avais pas... Non, je pense que ça, je le dis dans l'article, bref, on s'en fout, mais je savais pas forcément ni exactement ce que je voulais faire de ma vie après mes 4 années de voyage, donc 3 PVT et le voyage en Asie du Sud-Est pendant 7 mois. Mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas pour sûr. Et ce qui était sûr, ancré, peu importe, c'était de ne pas revenir à ma vie d'avant, reprendre un job de salarié, me trouver un appart et rentrer dans cette routine qui allait ensuite m'acheter par le confort matériel, mais dans lequel je ne m'épanouissais pas pleinement. Donc, à un moment donné, c'est si tu construis la confiance grâce au voyage progressivement, tu vois, la phase 3, ce que j'ai mis, c'est croire en soi, en son projet et se donner une réelle chance. C'est que le voyage va te permettre de construire la confiance, d'avoir aussi la certitude de ce que tu ne veux pas, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Mais ensuite, ça va te donner la motivation, et ça a été le cas pour moi. Ça m'a donné la motivation de me lancer, en fait, et de concrètement me donner une vraie chance dans un projet, même si à la base, peu de gens y croyaient autour de moi, et que j'en ai déjà parlé, mais l'anecdote d'un pote qui me dit, quand je lui parle de mon blog projet de blog voyage, etc., à ses débuts, il me dit « Oui, mais tu vas faire quoi vraiment pour de vrai après, tu vois ?» Une fois, genre sous-entendu, après ta blague. Et bien, je lui ai prouvé aujourd'hui que je vis probablement mieux que la plupart des gens de mon blog voyage. Et tu vois, en gros, c'est parce que j'y ai cru. Et c'est parce que je m'en suis donné les moyens. Ensuite, j'ai fait des démarches administratives. J'ai trouvé des aides administratives qui m'ont permis de me lancer parce qu'il en existe encore. Encore une fois, je vous le dis, j'ai des épisodes là-dessus sur les aides administratives. Les gars, faites les recherches, ça vaut la peine. Il y a peut-être des bourses, des accompagnements dont vous pouvez bénéficier. Prenez ce que vous pouvez prendre de l'État et puis lancez-vous, tu vois. Mais voilà, ça m'a donné la confiance, la motivation, d'envie d'y croire, entre guillemets, contre vents et marées, et de me donner une réelle chance pour que ça donne quelque chose. Parce qu'il faut aussi se donner une vraie chance pour que ça donne quelque chose. C'est pas en y bossant, malheureusement. Je sais que c'est compliqué d'un point de vue timing, mais c'est pas en y étant une heure par-dessus, tu vois, max par semaine, que tu pourras vraiment développer une activité viable dont tu pourras vivre d'ici 6 mois, 1 an. Il faut vraiment libérer du temps, faire des sacrifices qui valent la peine sur le moyen long terme. Et donc voilà, la phase 3, c'est croire en soi, en son projet, se donner une réelle chance. Et puis la phase 4, j'ai mis, est-ce que bah, du coup, transition vers l'entrepreneuriat, 2 points, la seule façon de trouver vraiment sa voie. Parce que ce qu'il faut aussi vraiment garder en mémoire, c'est que c'est pas au moment où tu vas te lancer, c'est pas avec l'idée avec laquelle tu vas démarrer que tu auras la certitude que c'est ta voie, que tout est sûr à 100%, que tu as le business plan parfait et que tu es sûr que ça va marcher et que c'est exactement ce que tu veux faire. Non, l'entrepreneuriat, en fait, c'est pour moi, c'est l'art de commencer quelque part, d'avoir une idée qui est viable de base et de la faire évoluer au fur et à mesure où tu apprends des choses, et à la fois sur toi, mais aussi sur les compétences, les connaissances, l'entrepreneuriat, les besoins aussi, la réalité du marché. C'est un mix de plein de choses. Et ça, tu peux le réaliser et affiner ton projet qu'en étant confronté, en fait, à l'entrepreneuriat et à la réalité du marché. Qu'en étant confronté au fait de faire des choses, à faire des choses qui ne marchent pas, des choses qui marchent, à itérer, à essayer, à tenter de nouvelles choses, à tenter des nouvelles voies, et à surtout passer à l'action. Enfin, je veux dire, c'est tous les conseils que tu as déjà entendus, mais à un moment donné, je ne peux pas le formuler autrement, tu vois, c'est vraiment ça, c'est avoir une idée qui te paraît crédible et de base, et j'ai des programmes là-dessus, tu vois, j'ai un programme entier qui s'appelle Trouver sa voie, mais j'ai également D'ici Liberté, où là, c'est vraiment un programme complet pour construire un projet viable de A à B, cette expression complètement ratée, de A à Z, pour pouvoir avoir un projet qui va être cohérent avec le mode de vie auquel tu aspires, et surtout qui puisse évoluer avec toi. Mais voilà, c'est à un moment donné, j'essaie de faire des programmes les plus concrets pour aider les gens à passer à l'action. J'ai aussi des accompagnements, enfin bref. Et ça, c'est plus compliqué parce que c'est très chronophage et ça me prend beaucoup d'énergie et de temps, donc je peux pas le faire énormément. Mais voilà, l'idée, c'est, voilà, je t'ai un peu parlé des 4 phases par lesquelles je suis passé. Donc, si je récapitule, on va dire, les 4 phases, bah, c'est oser sortir du schéma conventionnel. Donc, c'est le plus difficile, c'est se dire, OK, je prends une année sabbatique. Même si le côté sabbatique, pour moi, c'est compliqué parce que je sais que c'est rassurant, mais ça veut dire que tu as déjà une deadline dans la tête. Et pour ça, c'est pour ça que le pays d'Australie ou le voyage en mode backpack, bah, si tu pars en aller simple, tu pars vraiment en aller simple, tu vois. Dans ton esprit, tu n'as pas, OK, je rentre dans... Même si tu sais que c'est rassurant de se dire... En fait, tu peux... Moi, je suis parti en aller simple, mais je me disais dans ma tête, et ça, c'est difficile de l'enlever de sa tête, mais bah, déjà, si je tiens 6 à 8 mois, je serais déjà content et fier, tu vois. Et ça, je me le disais, mais en fait, une fois sur place, après 2-3 mois, je savais que j'allais rester au moins 1 an, peut-être 2, tu vois. Donc, mais voilà, si ça peut juste te rassurer, bah, avoir, oui, l'argent de côté pour pouvoir rentrer en cas de besoin. Mais en gros, moi, je conseille vraiment de partir en aller simple parce que sinon, tu as déjà une deadline dans ta tête et c'est pas la même, je trouve que c'est pas la même démarche psychologique. La deuxième phase, c'est de choisir... donc bref, c'est oser déjà. Bon, la phase 1, on va dire, c'est accepter l'idée que tu vas envisager un projet pour sortir du schéma conventionnel, pour t'exposer à de nouvelles expériences, pour te découvrir et donc ensuite progressivement trouver sa voie. La phase 2, c'est de choisir un voyage au long cours qui te correspond. Encore une fois, là, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être aussi, tu vois, il y a des mecs qui partent voyager en vélo, tu vois. Il y a des couples en fait qui vont emménager un véhicule et qui vont partir explorer l'Asie en véhicule depuis l'Europe, tu vois. Donc il y a plein de façons de faire. Moi, c'est vrai que le PVT pour les voyageurs solo, je trouve que c'est assez incroyable, même pour les couples. Ensuite, la troisième phase, bah, c'est pendant toute cette phase-là de voyage, bah, tu vas réfléchir, mais tu vas plutôt vers la fin, tu vas commencer à te dire, ok, bon, comment est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce qu'on fait si vous êtes à deux pour pérenniser ce mode de vie-là? Vous allez réfléchir à des idées, des trucs qui pourraient vous paraître viables. Vous allez forcément, peut-être en parallèle, vous former aussi ou savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut tester une idée, ce genre de choses. C'est, je trouve, extrêmement important d'avoir un projet le plus réaliste possible dès le début pour se lancer. Mais ensuite, la phase 3, bah, donc, c'est de croire en soi, en son projet et se donner une réelle chance, que ce soit pendant votre voyage, si vous décidez peut-être de vous poser quelque part pour bosser dessus, soit une fois rentré, de vraiment entamer des démarches concrètes pour vous dire, ok, on se donne une vraie chance, tu vois. Et après, rendre ça le plus viable possible d'un point de vue financier pour pas que vous mettiez dans la sauce. Moi, je considère vraiment que c'est important d'avoir toujours 6 à 8 mois de dépenses mensuelles ou moins de côté. Parce que si vous lancez à fond, bah, faut se dire aussi que pendant les premiers mois, vous n'allez pas générer de revenus avec. Pour moi, il faut quand même un certain temps avant que votre activité puisse générer des vrais revenus. Même si avec des bonnes méthodes, on peut quand même, pour moi, avoir des résultats plus rapidement que si on veut tout faire par soi-même, encore une fois. Et la phase 4, bah, pour moi, c'est, je considère que oui, il faut vraiment réaliser que l'entrepreneuriat, c'est potentiellement la seule façon de trouver progressivement sa vocation et de pouvoir affiner son projet et surtout le faire évoluer. Tu vois, moi, je suis parti de juste mon petit compte Instagram en anglais où je partage mes aventures de backpacker en Australie à un blog voyage en français, à monétiser un blog voyage en français, à aujourd'hui avoir une académie avec des formations, des accompagnements en ligne et avoir les deux en parallèle. Mais ça, ça s'est fait sur 5 ans, tu vois, enfin même peut-être plus. Ça, c'est peut-être, oui, sur 6-7 ans, tu vois, en tout. Donc, voilà, c'est un processus qui est long, mais l'idée aussi, et je terminerai par ça, parce que sinon, ça va être vraiment trop long, mais c'est d'apprendre dans toutes ces étapes-là, on dit en anglais « enjoy the process », il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est apprécier le chemin, tu vois. C'est pas juste de dire « oui, j'arriverai à ça, oui, une fois que je serai là, oui, que je serai à ça ». Non, le bonheur, c'est, tu vois, c'est maintenant. C'est un peu cliché comme phrase, mais moi, je pense vraiment que le bonheur est un choix. Et c'est dans toutes les épreuves, dans toutes les phases, dans toutes les réussites, dans tous les succès, c'est là où tu apprends, tu grandis. Et c'est ça, maintenant, c'est maintenant la vie. Tu vois, le seul truc vrai, là, à part tout ce qu'on dit dans notre tête, c'est là, le maintenant, le moment présent. Et ça, dans toutes les phases que tu traverses, c'est important de se le rappeler. Et dis-toi aussi, quand tu as des phases plus compliquées, une phrase qui m'a toujours beaucoup aidé quand j'étais des phases plus compliquées où j'hésitais, je ne savais pas si allait marcher et tout, c'est de se dire que tout est temporaire. Absolument tout est temporaire, il n'y a rien qui n'est pas temporaire, n'importe quelle galère, n'importe quelle situation, la plus horrible, la plus compliquée et tout, c'est temporaire. Tu vois, moi je me suis pas mal dit ça quand on avait la dengue tous les deux, et vraiment on a eu un sérotype extrêmement sérieux de la dengue au Guatemala, vraiment la santé de Teresa menait, moi-même, moi j'avais plus de symptômes mais mes résultats sanguins étaient moins mauvais, mais je subissais vraiment ma vie, j'étais vraiment pas bien, et j'ai eu un épisode en plus où j'ai eu une perte de sang, et en plus ça peut être vraiment très problématique en fait avec la dengue si t'as des pertes de sang, mais ça a été vraiment très passager, mais j'ai quand même eu la peur de ma vie. Et Teresa par exemple avait moins de symptômes, mais des résultats sanguins beaucoup plus inquiétants, et donc c'était vraiment notre santé, on était à l'autre bout du monde, tu vois. Bah en fait, le truc que je me disais, c'est que tout est temporaire, tu vois. C'est un moment donné, où on se sera remis de ça, on sera rentré, tout ira bien, machin. Et tu vois, après, je me disais, bon, cette phrase m'a aidé. Bref, fin de la parenthèse, et pour terminer sur une note positive, voilà, il y a cette phrase, je vais sûrement mal la citer, mais qui dit « l'important, c'est pas la destination, mais c'est le voyage en tant que tel, c'est le chemin, c'est vraiment ça. » Je te laisserai là-dessus. J'espère que cet épisode, un petit peu confus, encore une fois, était intéressant. Je pense qu'il est vraiment... J'ai essayé de couvrir le sujet d'une façon assez vaste, et j'ai essayé aussi de faire passer des messages dans lesquels je crois vraiment. Je peux me tromper, j'ai pas de vérité absolue, j'accepte toujours de discuter, que ce soit sur Instagram ou autre, donc si t'es pas d'accord, c'est parfaitement ok, si t'es d'accord, bah c'est ok, et bref, j'espère que cet épisode ça t'a plu, j'espère que tu pourras retirer certaines choses de celui-ci, et puis je te retrouve dans le prochain. Et donc si tu veux vraiment jeter un œil, et peut-être que t'envisages de près ou de loin l'option du PVT, sache que c'est le meilleur moment pour profiter et rejoindre les guides Réussir son PVT et la ruée vers l'or. Les accès sont à vie, donc une fois que tu les as pris, tu peux les consulter quand tu veux. C'est ce que j'appelle un petit peu le Netflix du PVT Australie, où tout est organisé dans un ordre logique avec tout ce qu'il faut savoir, toutes les ressources, tous les liens importants, et je t'explique absolument tout de vive voix, comme si un pote en fait qui a voyagé 2 ans en Australie et 1 an en Nouvelle-Zélande t'explique tout ce qu'il faut savoir, les bons plans, les erreurs à ne pas faire pour gagner du temps, de l'argent, trouver un job, etc. Bref, tout ça est en lien sous cet épisode. Si, merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais. Et dernière petite chose, n'hésite pas à laisser, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, à laisser une note si cet épisode t'a plu. On vient de passer plus de 40 minutes ensemble, désolé, mais si cet épisode t'a plu, n'hésite pas soit à le partager, ça me fait extrêmement plaisir, j'hésiterai pas à le relayer, il faut me taguer pour que je puisse relayer sur les stories Instagram. Mais sinon aussi, juste laisser un avis et une note, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, un petit 5 étoiles, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me prend pas mal de temps d'enregistrer et puis de monter ces épisodes-ci. Mais je le fais parce que ça, voilà, j'aime beaucoup le format. Et voilà, il y a des épisodes qui, moi, ont provoqué des déclics chez moi. Et si je peux, à ma petite échelle, partager des choses et véhiculer des choses qui peuvent, toi aussi, te donner des pistes de réflexion, ben, mon travail est réussi. Bref, je retermine vraiment par ma phrase. Merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.